Une émission où je reçois avec plaisir le docteur Patrice Borel, président de la Société scientifique et littéraire. Patrice Borel, donc, qui vient faire un peu le point de cette société qui est très ancienne à Digne-les-Bains et puis qui nous parlera des animations à venir pour cette année 2024. Peut-être aussi un petit bilan de l'année 2023, de ces reprises de vie suite à ces interruptions dues au Covid et au confinement. Il y a certainement dû avoir une baisse de fréquentation pendant un temps et on va voir donc tout ça, c'est maintenant. Bonjour Patrice Borel.
Bonjour à tous.
Alors, cette société scientifique et littéraire est née quand ?
Alors, elle est ancienne. C'est une émanation des sociétés dites savantes, le mot est très pompeux, mais a évolué au fil du temps, qui ont émaillé le 19e siècle notamment. Donc notre société, qui dit-on est l'association la plus ancienne du département, je ne l'ai pas vérifié mais on me l'a communiqué, est née très précisément en 1878. C'est l'abbé Ferraud, bien connu par ailleurs dans l'histoire locale de Digne, qui l'a créée, et pour tout vous dire, la première réunion s'est déroulée sur le boulevard Gassendi à l'ancien hôtel Mistre-Boyer. Alors après une étude pour réaliser les statuts, les premières activités sont intervenues vers 1880 avec l'apparition des premières revues de la société sur laquelle je pense nous allons revenir.
Très bien. Donc, créé par l'abbé Ferraud, vous n'avez pas connu cet abbé Ferraud.
Ah non, j'ai connu la salle de l'abbé Ferraud.
La salle de l'abbé Ferraud.
Dont on va reparler aussi.
Voilà, c'est là où se tiennent généralement les conférences.
Tout à fait.
Que vous mettez en place. Les causeries basalpines, c'est comme ça que...
Voilà, c'est un mot peut-être plus sympathique que conférence, qui est peut-être trop pompeux encore, que ce sont des conférenciers. Donc nous associons les deux termes, causerie-conférence.
Alors, est-ce qu'on peut faire un bilan sur 2023 ?
Oui, on peut faire le bilan, d'autant que nous allons avoir le 4 mars notre Assemblée Générale. Donc nous avons fait le dernier pointage, si j'ose dire. Alors, on pose souvent la question, quel est le nombre d'adhérents ? Alors, le nombre d'adhérents, très précisément, est de 285 à l'heure actuelle. Il a été par le passé un peu plus important. Je l'ai connu, moi, un peu plus important, mais il est vrai, comme vous le soulignez en préambule, que le Covid, comme toute association, a quand même laissé des traces. Donc on a eu une baisse de fréquentation. Mais actuellement, nous sommes en regain d'intérêt, si j'ose dire, et je pense qu'on va remonter un peu, sans peut-être atteindre les chiffres initiaux.
Quel est le but de cette société à la base ?
Alors, à la base... Je vais peut-être vous surprendre, je vous disais tout à l'heure, c'est une émanation des sociétés savantes. Dans les textes, il est marqué que c'est pour réunir les hommes studieux du département. Studieux, il y en a toujours autant, mais c'est vrai que nous sommes ouverts à beaucoup de personnes, sans aucune distinction, et en témoignent les conférences dont je vais vous parler ensuite, et dont je vais vous donner les titres, vous allez voir que c'est très varié, et ça n'est absolument pas réservé à une élite, quelle qu'elle soit.
Donc ce sont des conférences, des causeries basalpines, qui sont toujours gratuites ?
Tout à fait, j'ai tenu à ce que ça le demeure, elles sont gratuites, et elles sont ouvertes à tout le monde, même aux non-adhérents. Bien entendu, on espère que quelques-uns qui ne le sont pas le deviennent au fil du temps, mais on a essayé de faire quelques pointages au cours de l'année 2023 et on s'est aperçu qu'il y avait à peu près la moitié d'adhérents et la moitié de sympathisants.
Alors vous traitez de nombreux sujets. Comment vous viennent l'idée des sujets chaque année, puisque c'est une conférence par mois, alors, le premier mercredi du mois, c'est ça ?
C'est ça. C'est... une conférence par mois, excepté le mois de janvier, parce que comme c'est en début de mois, on pensait que ça allait être un peu redondant avec quelques festivités par ailleurs. Et nous n'avons pas de causerie en juillet et août, pour des raisons estivales bien entendu. C'est traditionnellement, sauf cette année où il va y avoir une exception, puisque le premier mercredi du mois tombe le 1er mai, donc ça sera le jeudi. Mais autrement, c'est le premier mercredi du mois... À 18h15, il y a le quart d'heure dînois, disons 18h30, donc la salle de l'abbé Ferraud, qui est au dernier étage donc, du centre des Michel, du centre des associations, à côté de la mairie de Digne.
Alors, des conférences donc d'accès pour tous. Est-ce que vous avez remarqué dans le public que c'est plutôt des personnes d'un certain âge, ou est-ce que c'est vraiment... Est-ce que les étudiants viennent aussi à ces causeries basalpines?
Alors, on peut parler de la démographie, si vous voulez, de notre société. C'est sûr que, comme je le dis parfois, il y a plus de sorties que d'entrées. Bon, c'est une société quand même en moyenne d'âge vieillissant, bien que je n'ai pas fait exactement de statistiques. Pour tout vous dire, et je crois que ça illustre parfaitement le sujet et votre question, nous avions décidé il y a quelques temps de faire un tarif étudiant, justement. Enfin, il y a 3 ans exactement. Il y a un tarif adhérent, il y a un tarif couple pour 2 adhésions, et on a créé un tarif étudiant, c'est junior, c'est moins de 25 ans. Nous n'avons à ce jour eu aucune demande pour ce tarif-là.
Et alors, c'est pourtant un tarif bas.
Ah, c'est 15 euros.
15 euros, oui.
Alors, on a eu quelques participations de jeunes relayées par l'IUT, parce que je me souviens plus exactement sur quel sujet. C'était un sujet qui avait alerté l'un des enseignants de l'IUT, et il en avait fait part à ses étudiants. Et il y avait des étudiants de l'UT. Mais vous allez voir que certains sujets sont tout à fait, justement, adaptables et devraient passionner des étudiants. Et au-delà des étudiants, on pourra en parler, si vous voulez, à part, mais j'ai un projet que je caresse depuis de nombreuses années pour, justement, intéresser, même au-delà des étudiants, les lycéens, et essayer de créer au sein de notre société, qui, par vocation, c'est vrai, à un certain âge, et ses adhérents aussi, bien entendu, ça va avec, d'y intéresser les jeunes, au travers peut-être de leurs enseignants, et de créer une filiale, dirons-nous, jeune, peut-être même qu'ils créent leur propre conférence, pourquoi pas, qu'ils créent leur propre revue, pourquoi pas, qu'ils inscrivent dans notre société un brin de numérique que la moyenne d'âge de nos adhérents peut-être n'est pas à même de faire elle-même. Enfin, il y a des possibilités de ce côté-là.
C'est intéressant. Ce serait.
Je pense que ça serait effectivement une bonne chose. Alors bon, ça demande un travail de préparation. Entre parenthèses, je vous signale que nous sommes tous des bénévoles, donc c'est pas toujours évident de concilier les impératifs familiaux et le professionnel pour certains qui travaillent encore. Bon, pour ma part, je suis retraité, donc ça pose moins de problèmes, bien que j'ai plusieurs casquettes à gérer. Mais bon, ça, c'est ma vie et je le veux bien. Voilà, donc il faut arriver à s'intéresser à la chose. Mais c'est un des projets que j'aimerais réaliser quand même, sous mon mandat, puisque je suis, on n'en a pas parlé, mais le 16e président de la société.
Donc, élu pour combien élu, d'années, comment ça se passe?
Élu par le bureau, lequel bureau revient à élection tous les 2 ans.
D'accord.
Voilà, le bureau choisi par le conseil d'administration. Mais là aussi, vous savez, le conseil d'administration, avant, c'était un grand honneur d'être au conseil d'administration des sociétés, quelles qu'elles soient. Il y avait des parrainages et tout, maintenant... C'est ouvert à tout le monde, toute personne qui veut s'investir. C'est plutôt une question de disponibilité de temps. Voilà. De toute façon, quelle que soit la personne qui se manifestera et qui voudra nous aider en quelque manière que ce soit, sera la bienvenue.
Est-ce qu'on peut revenir sur quelques conférences qui sont déjà passées pour voir les différents thèmes qui ont été abordés jusqu'à maintenant? Et il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup, ils sont variés. Alors, il y a quand même une unité théoriquement. On demande, si possible, à ce que le sujet ait au moins un brin d'histoire locale. Ce n'est pas toujours le cas, mais j'y tiens. Alors, on trouve toujours un moyen de s'arranger. Vous me disiez comment on recrute les conférenciers, si j'ose dire. C'est variable. Certains se présentent d'eux-mêmes et disent « Tiens, j'aimerais bien faire... » une conférence dans votre structure sur tel sujet. D'autres, et c'est la majorité, nous les sollicitons, et je les sollicite puisque je m'en occupe tout particulièrement. C'est le bouche à oreille, c'est la presse locale que je vois qu'un certain personnage a fait une conférence sur tel sujet. Je subis peu de refus, mais ça arrive, ou ça devient trop compliqué. Et puis, j'ai découvert au fil des années qu'il y avait autre chose aussi, c'est que beaucoup de gens voudraient raconter quelque chose, mais n'osent pas. Ils n'osent pas pour plusieurs raisons, ou parce qu'ils n'aiment pas s'exprimer en public. Ça peut ne pas être évident pour certains, je le reconnais. Ou ils veulent pas. Voilà. Alors, il y a aussi une possibilité, peut-être, un jour, si nous sommes en manque de conférences, de solliciter les gens qui ne veulent pas et de raconter des histoires à leur place. Pourquoi pas. Alors, les sujets sont variés, je vous disais. Vous m'avez posé la question de savoir, sur les sujets qui avaient été traités, quelles sont les variétés, si vous voulez. Alors, les variétés de 2023, nous avons eu donc 9 conférences en 2023. La première, je vais vous les citer brièvement, oui, si vous voulez. La première, on en a reparlé récemment à cause de la sortie d'un film sur Monseigneur de Miolis. C'est le docteur Saugeron qui avait fait cette conférence. Entre parenthèses, conférence, une unité aussi de participation. La moyenne se situe aux environs de 70-80 personnes à chaque conférence. On a eu des records sur des sujets bien, bien particuliers. Mais en plus, on doit respecter les normes de sécurité et le nombre de places est maintenant assez réglementé.
Donc c'est une moyenne de 80 personnes.
À peu près, disons 70, voilà, 70. Voilà. Il y a eu moins.
Oui.
Mais vous savez, quelqu'un qui aime les conférences, qui est habitué aux conférences, il faut qu'il accepte. C'est pas toujours évident. Moi, ça m'est arrivé une fois, non pas dans ce cadre-là, mais dans un autre cadre, de faire une conférence dans une autre ville que Digne. Il y avait 10 personnes. 10 personnes dans une salle qui en contient 100, ça fait un peu vide. Hein.
Ouais.
Mais vous savez, c'est comme les enseignants. Ça, ils disent tous que d'enseigner à 2 ou d'enseigner à 30, ben, pour eux, c'est un cours. Ben là, c'est une conférence. Alors j'en reviens à notre propos. Donc l'an dernier, 2023, il y a eu donc cette conférence sur Monseigneur de Miolis. La suivante, on restait dans le territoire, puisque c'était conférence archéologique de Génie Sélec qui avait géré les fouilles du gymnase Borély. Donc ça s'intitulait « Vivre à Digne au 1er et 3e siècle ». Ça allait de pair avec l'exposition qui avait lieu aux archives départementales. La suivante, alors on sortait un peu de Digne, mais on restait sur le territoire quand même. C'était Jean-Pierre Pinatel, des Amis des Messes, qui, à partir d'un livre remarquable, très agréable à lire et très bien documenté, nous racontait l'histoire du ver à soie. Ça s'intitulait « Mémoire du ver à soie en Haute-Provence ». Forte participation aussi du public. En mai, c'était l'un de vos collègues, si j'ose dire, de la presse, Jean Dupré, qui traitait des hussards. C'était sa passion et il nous a parlé des hussards. Donc vous voyez que chaque fois, c'était un sujet qui est tout à fait différent. Puis nous sommes revenus dans la vallée du Verdon, du Haut-Verdon, avec les filatures du Haut-Verdon au XIXe siècle, par le docteur Michel Sédin. En septembre, c'était tout aussi local avec Jean-Claude Hippolyte Piolle qui traitait des fruits oubliés des Basses-Alpes. Forte participation du public aussi, d'autant qu'il avait amené des fruits. Les gens pouvaient voir des variétés de poires tout à fait méconnues, par exemple, entre autres. En octobre, c'est André Poggio, qui est notre trésorier et passionné d'histoire provençale, qui nous a parlé d'André Mayfair, qu'il a intitulé faussaire professionnel. C'est un monsieur qui faisait des copies de meubles, notamment, mais qui était local. En novembre, la rotonde de Simiane, qui est un sujet et un lieu que beaucoup de gens ne connaissent pas dans notre département, ou du moins ne méconnaissent. Et en décembre, j'ai fait le vœu de réserver la conférence de décembre chaque année à l'une des structures au sein de notre société qui s'appelle le comité de sauvegarde. Ce comité de sauvegarde, qui a été créé dans les années 60, s'occupe, comme son nom l'indique, de la sauvegarde de certains bâtiments, pas forcément religieux d'ailleurs, comme on nous le dit, mais ce n'est pas vrai. Et nous recueillons des dons, puisque nous sommes reconnus pour pouvoir recueillir des legs et des dons. Et nous sponsorisons, entre guillemets, nous essayons d'aider certaines personnes qui entreprennent des restaurations ou des conservations de monuments.
Ah oui.
Donc chaque année, en décembre, nous présentons les résultats de l'année en cours et nous émettons des projets pour l'année à venir, avec chaque fois une conférence sur les deux sujets qui nous montre ce qui a été réalisé. Alors je peux vous dire en 2023 ce dont il s'agit. En 2023, nous avions deux projets. Alors effectivement, là, ils étaient religieux pour le coup. L'un concernait l'église d'Espinouse et l'autre concernait la restauration d'une petite chapelle que personne ne connaît d'Andigne, qui fait 25 mètres carrés au sol, qui s'appelle Saint-Jean de Chrysostome.
Et qui est où alors cette...
Elle est près du bourg,
ouais.
À la maison de retraite, derrière la maison de retraite, en face l'autre maison de retraite, il y a deux maisons de retraite. C'est une petite chapelle qui a été redécouverte. Donc ces conférences-là, c'est moi-même qui les ai faites, avec en parlant du bâti, en parlant du contenu de la chapelle, notamment Saint-Jean Chrysostome, il y a les reliques du saint, enfin les reliques supposées du saint, et puis en parlant du projet donc de restauration, notamment de la toiture, parce que c'est une chapelle en partie troglodyte qui est contre et même un peu dans le rocher de Saint-Vincent, et qui subit malheureusement la chute de pierre. Donc il faut restaurer la toiture, il faut restaurer les sols, il y a des infiltrations comme dans beaucoup d'édifices, voilà. Donc cette conférence de décembre, désormais, sera réservée au comité de sauvegarde.
D'accord.
Mmh. Vous voyez que l'éventail est large. Si vous voulez deux mots sur le programme donc des conférences à venir, maintenant.
Bien sûr, plus que deux mots d'ailleurs.
Plus que deux mots. Alors déjà, première satisfaction, nous sommes en janvier, le programme est complet. J'ai même trois réservations pour 2025.
Oh.
Donc c'est vous dire l'engouement de la chose. Alors notre première conférence sera celle du 7 février. C'est Henri Joannet, qui est le président des Amis des Metz, qui parlera des groupes de travailleurs étrangers lors de la Deuxième Guerre mondiale. Cette conférence est issue, comme c'est de temps en temps le cas, d'un ouvrage qu'il a écrit et qui est paru en 2022 aux éditions C'est-à-dire, et qui traite de ce sujet. Ça, c'est pour février. Ça sera donc la première conférence de l'année. La deuxième conférence, qui est celle de mars, qui se déroulera le même jour que notre Assemblée générale, un peu plus tard, puisque l'Assemblée générale sera en début d'après-midi, et là, la conférence, je vous le répète, 18h15, c'est le docteur Bernard Renoux, qui est un chirurgien maintenant retraité du Var, mais dont les origines sont ici, dans les Alpes de Haute-Provence, et qui prend plaisir à revenir régulièrement. Cette conférence s'intitule « L'assistance alimentaire en Haute-Provence sous l'Ancien Régime ». Ça a déjà fait l'objet d'ailleurs d'une parution dans notre revue, parce que j'ai demandé, quand cela était possible, que les conférenciers, outre leurs conférences et leurs propos donc parlés, nous fassent aussi un article que nous faisons paraître dans nos revues. Pour vous dire, on m'a même demandé si on ne pouvait pas faire des enregistrements et les mettre sur le net. Peut-être ça se fera un jour, mais vous savez.
Ben, ce serait super ça, en partenariat avec Fréquence Mistral.
Pourquoi pas? Tout est envisageable, voilà. Il suffit de trouver les arrangements et surtout le temps. Troisième sujet de l'année à venir. Alors, c'est un médecin de Digne. Vous direz, il y a beaucoup de médecins, mais c'est un peu mon carnet d'adresse, qui le veut, qui est connu, le docteur Jacques Samouélian, qui était pédopsychiatre. Alors là, pour le coup, c'est un sujet qui ne concerne pas directement notre région, mais qui concerne une icône russe, qui qui se trouve à Moscou, qui est la plus célèbre des icônes, qui en plus, je crois, mesure 1 mètre sur 1,50 m. Je veux dire, c'est un beau... Ce qui s'appelle l'icône de Roublev. Alors, je lui ai dit, mais Jacques, je suis désolé, mais ça n'a aucune connotation locale. Il me dit, oui, mais tu verras, c'est passionnant. Et notamment, la plus belle, il y a eu des copies de cette icône, et l'une des plus belles se situe dans le département voisin, dans les Hautes-Alpes, donc dans un monastère orthodoxe, je crois. Donc, allez, on fait une petite entrave. Ça risque d'être passionnant quand même. Le 2 mai, donc c'est un jeudi, puisque le mercredi est le 1er mai, et nous n'aurons pas accès à la salle. C'est un astrophysicien de Saint-Michel Observatoire, Denis Gillet, qui nous traitera d'un sujet, là aussi, un voyage cosmique, comme il l'intitule. Le titre exact, c'est « Comprendre l'univers, quelle est son ultime structure ?» Tout un programme, il n'y a que les astrophysiciens qui sont capables de donner des titres pareils. Alors, M. Gillet est venu il y a 2 ans nous faire une conférence déjà, parce qu'il a toute une panoplie de conférences prêtes à l'emploi, si j'ose dire. Ça avait été passionnant. Il y avait beaucoup de monde présent, mais c'était dans le cadre de l'atrium, parce que la salle de l'abbé Ferro était en réfection. Donc on avait été limité en place. Là, je pense qu'il y aura beaucoup de monde, d'autant qu'il projette des photos et des films qui avaient été fabuleux. Alors au mois de juin, c'est un peu particulier, puisque, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, mais sur le plan culturel régional, l'année 2025 a été annoncée, 2024, pardon, vous voyez, je vais trop vite dans mes propos, a été annoncée comme l'année Frédéric Mistral. Alors, on s'y est intéressé dès qu'on l'a su, et donc c'est quand même quelqu'un de bien placé, puisque c'est l'ancien capoulier du Philibrige, donc c'est l'ancien patron du Philibrige en France, le digne successeur de Mistral, qui viendra à Digne pour traiter d'une conférence sur la fréquentation du département, enfin, la venue de Frédéric Mistral dans notre département. Il est venu plusieurs fois en des lieux variés, notamment en cure thermale à Gréoux-les-Bains et à Digne, mais il est aussi venu à Fort-Calquier en d'autres lieux. Donc Pierre Fabre, donc le conférencier, nous illustrera ce passage de Frédéric Mistral dans notre département. Et nous avons d'ores et déjà réservé une bonne partie de notre prochaine revue à ce propos. En septembre, nous changeons un peu de chapitre. On en revient à l'histoire locale. Et c'est François Giraud, qui est un Sénois d'adoption, qui est un passionné d'histoire, et qui nous traitera des guerres de religion dans les Basses-Alpes. Il a 2 passions, M. Giraud, c'est Jeanne d'Arc, ça ne se prêtait pas spécialement à notre département, et les guerres de religion dans le département, où il nous présentera les protagonistes. Enfin, ça s'annonce passionnant aussi. Le mois d'octobre, il me faut un peu de modestie, puisque c'est moi-même ainsi que mon épouse qui traiteront le sujet de la variolite. Alors la variolite, c'est une pierre, un galet de la Durance, qui émane des sources de la Durance, que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui a des petites taches, d'où son nom de variolite pour la variole.
Mais ça ne soigne pas la variole.
Ça ne soigne pas la variole, bien qu'on l'ait évoqué. Donc c'est mon épouse qui est docteur en géographie, qui nous parlera de l'origine de cette pierre, qui est une pierre volcanique, basaltique, et puis de son cheminement au fil de la Durance jusqu'à son abouchement où on retrouve cette pierre. Et quant à moi, je traiterai de la deuxième partie, du galet de la Durance à la pierre à guérir. Donc je parlerai des croyances et des guérisons supposées de cette pierre, non pas trop pour la variole, mais pour d'autres sujets.
Donc ça s'annonce également passionnant.
C'est original, dirons-nous, comme sujet. Et puis l'avant-dernière conférence, alors nous reviendrons au local encore une fois. En novembre, c'est Jean-Marc Poli, qui est un ancien salarié de l'usine de Saint-Auban, qui au fil des années a réuni beaucoup de documents, notamment d'anciennes cartes postales, des écrits et tout concernant l'usine, et qui donc fera l'historique de l'usine de Saint-Auban. Ça s'intitule « Si l'usine de Saint-Auban m'était comptée ». Et puis donc en décembre, ben nous en revenons à ce que je vous annonçais tout à l'heure, à ce spécial comité de sauvegarde, dont le sujet est déjà arrêté, puisque nous traiterons en partie le sujet de 2025. Il n'est pas encore connu, donc je ne peux pas vous en parler. Mais par contre, au titre de 2024, nous parlerons de Thoram Basse et notamment de la tour de Piégu.
Alors ça, ce n'est pas réservé à un certain public, cette...
Ah non, non, hein, c'est ouvert à tout le
c'est
monde.
C'est spécialisé avec le comité de sauvegarde, mais voilà. c'est ouvert à tous également.
Ouvert à tous, c'est gratuit. Et pour tout vous dire, nous avons aussi en parallèle de nos activités une sortie annuelle sur un sujet. Et cette année, avec l'association locale de Thoram Basse, de sauvegarde du patrimoine, nous ferons donc notre sortie qui, elle aussi... Alors, le problème, c'est que c'est parfois... limité en nombre de participants, donc nous n'ouvrons aux non-adhérents que dans les limites des places encore disponibles. Mais donc cette sortie, cette journée d'études et de découvertes, comme nous l'intitulons, se déroulera à Thoram Basse avec la visite de la tour, pour laquelle nous avons fait un don, puisqu'elle va être restaurée, des édifices religieux locaux. Et puis, Thoram est actuellement l'objet de fouilles archéologiques. Donc, nous visiterons ces lieux avec Vincent Bussiot, qui est le chef de service d'archéologie d'EP sur le plan départemental, qui est un monsieur avec lequel nous entretenons d'excellents rapports et qui régulièrement vient d'ailleurs nous présenter des conférences. C'était le cas aussi l'an dernier, puisqu'il avait présenté le projet de la tour de Piégu, et donc nous en reparlerons cette année pour voir où on en est de la restauration. Voilà pour le programme. Il y a eu d'autres sujets qui avaient été évoqués. Pour n'en citer qu'un, j'avais essayé d'organiser une conférence sur la pipistrelle, sur la chauve-souris. Puis ça n'a pas pu se faire. Peut-être ça sera pour l'an prochain. L'an prochain, il y a déjà une place de réservée sur des ponts de la Durance, notamment sur le pont de Sisteron, le pont de la Baume. Voilà. Donc vous voyez la diversité des sujets.
Merci, Patrice Borel. Maintenant, on va revenir donc sur ces fameuses revues. C'est en général deux revues annuelles.
Alors, ces revues qui s'intitulaient au départ Annales des Basses Alpes, les Annales des Basses Alpes, qui maintenant s'intitulent les Chroniques de Haute-Provence.
Depuis quand alors ?
Actualiser. Le premier numéro, je crois, est paru en 1880, deux ans après. Là, voilà. Là, nous venons de publier la deuxième revue de l'année, le numéro 390. C'est vous dire le...
Avec ce nouveau titre, alors.
Ah oui, ah oui, chronique. Mais ça, c'était plusieurs années que ça s'intitule Chronique. Alors, vous avez entièrement raison, c'était deux numéros par an. Malheureusement, pour des raisons un peu financières, mais pas que, mais surtout, ça nous demande un travail phénoménal de relecture, de correction, de... Et donc, nous avons...
Et qui rédige ?
Alors là aussi, c'est ouvert à tout le monde,
oui,
toute personne. C'est récurrent pour certains auteurs qui prennent un grand plaisir à publier dans les chroniques de Haute-Provence. Ces articles qui paraissent, et ça fait partie du cahier des charges, sont théoriquement, il y a eu quelques exceptions, mais très très peu, des articles originaux. Ça n'a jamais paru, c'est la première parution. Et puis il faut que vous sachiez que parmi nos adhérents, nous avons certes beaucoup de gens locaux, mais on a aussi certains universitaires, et on a des universités. Et pour tout vous dire, nous avons des universités qui lisent nos revues et qui s'y intéressent beaucoup en Israël. Nous avons des universités aux États-Unis qui nous commandent des livres. Donc, c'est prisé. Alors, ces revues, elles font partie de l'abonnement. Nos adhérents reçoivent deux revues par an, pour l'instant, ou elles sont en vente, ou à notre siège, ou dans certaines librairies. Il n'y a pas encore d'achat en ligne, mais ça viendra peut-être un jour. Donc deux revues par an, mais à partir de cette année, 2024, il n'y aura qu'une seule revue. C'est d'ailleurs ce qui a été adopté par beaucoup d'associations de notre genre, notamment celle des Hautes-Alpes, qui ne publie qu'une revue, qui est plus conséquente, mais non plus deux revues. Alors, pour vous donner une idée aussi du contenu des revues, je vais vous donner quelques titres qui sont... Alors, ça a été parfois le cas, mais c'est plus rare. En général, c'est plusieurs thèmes par revue. Il y a eu des fois où il y a eu une seule revue consacrée à un seul thème, mais en général, justement, on s'attache à avoir une revue avec des thèmes variés, dont certaines reprennent les conférences. C'était le cas pour cette dernière revue, numéro donc 390 des Chroniques de Haute-Provence, qui est sortie la semaine dernière, pour tout vous dire, donc c'est tout récent. Le premier article sur ce sujet, c'est justement un sujet de conférence, c'est l'histoire de... Il y a eu Monseigneur de Miolis, et là, le premier sujet traité, c'est l'histoire du moulin de Fontlèbre à Aiglun, donc c'est purement local, où on s'est intéressé à toute l'histoire de ce moulin depuis 1643. Donc vous voyez qu'il y a eu des recherches quand même qui ont été faites. Le deuxième sujet qui a été traité également est très local, puisque c'est l'organisation du fief de Dromont, que beaucoup de gens ont déjà visité, par Irène Magnodex, qui est une figure aussi locale. On a mis un brin d'originalité par rapport à d'autres articles, puisqu'on a parlé un peu de sport, c'est pas toujours le cas, local, avec un sujet sur l'Union sportive d'Innoise et son historique, par Philippe Picot. Et puis René Garcin, qui est le responsable des archives communales, a rajouté quelques images du sport à Digne dans les années 1930, avec notamment des images de groupes d'associations sportives de Digne. On en revient à l'histoire locale. Il y a un gros article de Janine Bourvéo-Ravoux sur l'histoire d'Aubignox, et notamment l'histoire de son château disparu. Ça fait d'ailleurs l'objet de la couverture du livre. Le sujet suivant parle d'un personnage qui a fait aussi l'objet d'une conférence au préalable par André Poggio, qui s'appelle Marcel Provence. Et au total, donc, nous avons bouclé une revue de 160 pages à peu près, avec beaucoup de documents photographiques, une iconographie riche. Et pour être complet, justement pour rebondir sur cette iconographie que nous aimons tout particulièrement sur le plan de la reproduction, les images sont magnifiques en couleurs, et je rebondis justement sur ça pour vous donner... Alors ça a été aussi, c'est mon prédécesseur qui s'y était particulièrement attaché, mais aussi par avance c'était le cas. On a tout fait pour que l'édition, la préparation, l'impression de cette revue soit locale. Et là, actuellement, cette revue est réalisée par Pigment Noir, donc qui est à Digne même. Précédemment, c'était transfert à Thurier. Donc nous privilégions et nous tenons à ce que ça soit une revue qui reste locale dans sa réalisation et aussi dans son impression.
Donc c'est sur du beau papier avec de belles images. C'est une revue de qualité. Donc,
voilà, mais il faut accepter un peu le principe de dire, bon, je lis quelque chose, mais il y a 10 sujets à l'intérieur.
Voilà. C'est plutôt sympa, oui.
Oui, d'ailleurs, je me suis un peu renseigné, auprès de certains lecteurs, pour leur dire « Mais comment vous appréhendez la revue quand vous la recevez ?» Beaucoup regardent le sommaire, repèrent un sujet, le lisent. Alors le problème, c'est qu'après, on le met un peu à part, le livre. Mmh. Mais ils y reviennent. Voilà, ça peut être fait en plusieurs temps. Et je peux même vous dire que certains achètent deux livres pour en offrir un systématiquement en cadeau à quelqu'un.
Le prix d'une revue ?
Alors, la revue actuellement est à 20 euros. La prochaine qui sera plus conséquente risque d'être un peu majorée dans son prix. Ça montera peut-être à 30 euros, je ne sais pas. Mais je vous le répète, ça fait partie de l'adhésion. Laquelle adhésion, d'ailleurs, est actuellement à 35 euros.
Voilà. Très bien.
Beaucoup de projets. Et on va essayer de maintenir donc ce rythme de la revue. Il n'y en aura plus qu'une, mais on y tient. Et puis des conférences qui montent en puissance, et je pense aussi que c'est bien apprécié. C'est le cas. Alors, tout est perfectible. On va parler un peu de nos projets, de nos objectifs, si vous voulez bien, pour terminer. On en a eu un en 2023, il s'est réalisé, donc il n'y a pas de raison que les prochains ne se réalisent pas. Notre projet 2023, c'était la création d'un nouveau site web. Donc, nous avons un site que vous pouvez consulter dès maintenant, que nous avons voulu vivant. Alors, on en avait un, mais qui devenait un peu désuet au fil du temps. Donc, celui-ci est vivant. Il vous suffit de taper dans le moteur de recherche SSL, en minuscule, Société Scientifique et Littéraire. Donc, SSL04, ça tout se tient, .fr.
Et là, on retrouvera évidemment toutes les conférences à venir, les dates, les explications.
Voilà, donc sur ce site, il y a le calendrier, il y a le sommaire des dernières revues, et on remonte sur plusieurs revues, il y a les conférences à venir, et il y a même le titre des conférences depuis leur création. Donc après, si les gens veulent se mettre en relation avec nous parce qu'ils cherchent un article ou un sujet de conférence tout particulier, il n'y a pas de problème, qui nous contacte.
Donc c'est la création d'un nouveau site, mais avant il y avait un site déjà.
Il y avait déjà un site,
voilà,
mais qui datait de plusieurs années, qui était
pas forcément mis à jour.
Qui était mis à jour, oui, il était mis à jour, mais il était plus difficile comme abord, il était moins moderne. Quoi. Il faut vivre avec son temps, donc on a voulu en faire un. Mais il y a toutes les informations, nos téléphones, nos permanences, en fait, tout est sur le site. Pour l'instant, on a de bons retours. Mais bon, après, comme vous le dites, c'est le problème, c'est justement la mise à jour. Combien vous voyez de sites d'associations ou autres qui sont complètement délaissés et qui ne sont pas à jour? On va tout faire pour que celui-là le soit. Donc ça, c'était pour 2023.
Pour 2024, projets.
Pour 2024, des projets, il y en a. Il y a la concrétisation donc de ce comité de sauvegarde que nous voulons, là aussi, encore plus vivant. Il y a, si possible, augmenter en nombre d'adhérents en participant à des manifestations. Alors, on participe déjà à la journée du patrimoine, on participe au forum des associations, pas toujours, cette année ça n'a pas été le cas. Mais bon, on essaye, au travers de nos conférences aussi, on va essayer. Et puis, alors ça c'est un vœu peut-être pieux de ma part, mais on s'intitule Société scientifique et littéraire de Haute-Provence. On a tendance peut-être, et on nous le reproche, d'être un peu trop replié sur Digne, alors que nous avons des adhérents sur tout le département. Ça a existé dans le passé, mais c'est un peu tombé dans l'oubli, et j'aimerais recréer justement une dynamique pour qu'on s'ouvre à l'ensemble du département. Il faudrait notamment, nous avons des adhérents dispersés dans le département, et il faudrait recruter parmi eux des personnes intéressées pour représenter tout particulièrement la société, à Manosque, à Bannon, à Barcelos, à Castellane, voilà, dans certaines villes, Sisteron, et excusez-moi d'en oublier certaines, pour qu'on puisse peut-être délocaliser certaines manifestations, notamment les conférences. On pourrait très bien faire deux fois la même conférence, si l'auteur est intéressé, bien entendu, une fois Digne, puisque c'est la tradition, et une fois délocalisé.
À Manosque.
Pourquoi pas à Manosque ou ailleurs. Ou à Simiane-la-Rotonde, quand il y a eu celle de Simiane-la-Rotonde. Voilà. Donc ça, c'est l'un des projets. Le deuxième projet, mais il faudra le temps que ça mûrisse, et j'espère que j'en aurai le temps, concerne cette ouverture envers la jeunesse. Mais bon, là, il va falloir des appuis, il va falloir... Mais pourquoi pas ? Moi, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Je suis sûr que les lycéens de terminale, par exemple, seraient intéressés pour faire une toute petite revue numérique, exclusivement numérique, avec des sujets qu'ils choisissent ou qu'on choisira ensemble et qu'ils pourront réaliser un travail avec leurs enseignants. Ça peut être... D'autant que... Je reviens toujours à notre titre. Nous appelons la société scientifique et littéraire. Donc on peut jouer sur deux tableaux, le littéraire et le scientifique. Et là, il y a matière pour l'enseignement. Et puis un dernier projet qui peut paraître un peu accessoire, mais qui ne l'est pas. On le disait en préambule, nous avons des adhérents d'un certain âge pour certains. Certains ont des problèmes de vue. Et on a envisagé aussi de développer une bibliothèque sonore avec la lecture de, je ne sais pas, on pourrait choisir deux articles par revue ou quoi, pour que tout le monde en profite. Voilà, une vie ne suffira pas, mais on ne manque pas d'idées.
Ben je vous remercie. Vous aviez peur d'une durée de 30 minutes. On a largement dépassé.
Mais non,
il n'y a pas d'excuse. Non, c'est très bien, au contraire. Je voulais revenir sur... Vous m'avez dit quand a été créé le comité de sauvegarde.
Le comité de sauvegarde, c'est 1969.
1969.
Voilà. On a la liste des actions qu'on a faites. On a aidé à la réfection de plusieurs édifices.
Et là aussi, il y a un site...
Non, c'est inclus dans l'association.
C'est une partie
de la société scientifique.
D'accord.
Elle a ses réserves propres sur le plan financier. On a aidé... Alors, c'est vrai, beaucoup d'édifices religieux, parce que ça se présentait comme ça. Quand vous voyez le nombre de chapelles, on m'a encore appelé l'autre jour pour voir une chapelle, c'est un tas de pierres. Si un jour elle se réalise, ça se fera l'objet. Mais, et c'est bien que nous... Terminant là-dessus, je fais un appel, parce que certaines personnes n'osent pas ou ne savent pas qu'on peut faire appel à nous. Alors, attention, on n'est pas la fondation
de patrimoine
ni Berg, ni... Les sommes qu'on engage sont... Mais c'est le geste qui compte. Et puis, je vous le rappelle, nous, ce sont des dons qu'on nous fait, et nous, on les redistribue. Alors on les redistribue ou pour une action bien particulière, un site, je donne à la société 200 euros à condition qu'elle l'utilise pour la réfection de tel édifice. Donc les édifices sont variés, il y en a qui sont privilégiés chez nous, là on n'a pas le temps d'en parler, vous voyez comme quoi il faut que je revienne.
Ben voilà.
Mais nous avons notamment la responsabilité d'une chapelle magnifique de notre département. Je ne sais pas si ça va peut-être évoquer des choses chez certains auditeurs, qui est la chapelle Saint-Donat, qui est sur la commune de Montfort, qui est un édifice magnifique et trop méconnu. Mais nous avons aussi aidé à la réfection de la porte de Notre-Dame-du-Bourg, par exemple. Mmh. Alors, on aimerait avoir des sujets non religieux, justement, pour couper court à tout. Mais encore faut-il qu'on nous en propose. Alors, on en a un ou deux, notamment à l'aqueduc de Gobert, mais ça peut être la réfection d'un moulin, ça peut être... Voilà. Donc, si parmi les auditeurs, certains s'intéressent à une action particulière, ou s'ils connaissent quelqu'un qui s'y intéresse, qui rentre en rapport avec nous, on arrivera sûrement à une bonne entente.
Donc, on rappelle une adresse mail à...
Le tout,
téléphone.
C'est de passer par le site, c'est le mieux,
voilà.
Parce que les permanences sont aléatoires. Voilà, donc passez par le site. Vous pouvez y laisser un mail dessus, il sera lu et on y répondra.
Patrice Borel, merci beaucoup. Et puis, on va essayer de se revoir régulièrement pour parler de ces causeries basalpines à venir et de l'apparition de la revue. Elle va apparaître pour quand, alors
Elle est déjà en préparation, et on a déjà, pas tous les articles, mais une bonne partie. Et nous réunissons encore la semaine prochaine justement pour en lire certains. La parution, ça sera après les vacances d'été. Peut-être même ça pourra aller jusque. Ça sera plutôt dans le deuxième semestre 2024. Voilà.
D'accord. Merci. À bientôt.
Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.